10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver en direct et jusqu'à 16h pour partager vos expériences de vie et à mes côtés, ma camarade Omblin. Comment allez-vous ma chère aujourd'hui?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Ici nous parlons de vous, de votre quotidien, de vos joies, de vos doutes, car votre vécu nous intéresse. Alors l'Organisation Mondiale de la Santé recommande de faire au moins 30 minutes de marche rapide par jour. Entre 18 et 64 ans, il faudrait faire au minimum 2h30 d'activité sportive d'intensité modérée toutes les semaines pour se maintenir en bonne santé. Les vertus du sport sont nombreuses pour le corps et l'esprit. Il permet de lutter contre le surpoids, de mieux dormir et de se défouler, de lâcher prise, en même temps de se surpasser. Mais certains disent n'y prendre aucun plaisir ou s'en passer sans problème. Alors jusqu'à quel point le sport est-il indispensable au bien-être ? Comment réussir à se motiver quand on n'a pas l'âme d'un sportif? Comment peut-il aider à aller mieux? Le sport est-il indispensable à notre bien-être? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Oui, sportif ou non, vous n'hésitez pas à témoigner au 39-21, le standard d'Europe 1, 39-21, 50 centimes la minute. Pour nous écrire, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et on vous lit aussi sur Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Margot sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Margot.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 21 ans et je vous appelle de Lyon.
D'accord. Alors vous Margot, le sport, vous le pratiquez depuis toute petite, en faisant de l'équitation notamment. Ce sont vos parents qui vous ont poussé vers cette discipline?
Alors, pas spécialement, mais mes sœurs faisaient de l'équitation quand elles étaient plus jeunes. Alors, on va dire que je les ai un petit peu suivies. J'ai découvert ce sport vers mes 7 ans et j'ai continué pendant 8-9 ans, je dirais.
Mmh. Et quelle vertu vous trouviez dans ce sport, déjà, toute jeune?
C'est un sport qui est assez libérateur parce que du coup, on se retrouve avec le cheval, on peut partir en balade, on profite, on respire le grand air, puisque j'habitais à la campagne.
Oui.
Et c'est notamment pour ça, c'était pour pratiquer avec des amis, voilà. C'était un moyen de me libérer un petit peu l'esprit, de faire du sport, et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce sport.
Le rapport aussi aux chevaux est tout de même très important dans ce sport. Il y a quelque chose qui se crée entre ces chevaux et les cavaliers, non?
Oui, tout à fait. C'est vraiment, il faut vraiment être passionné, être à l'écoute du cheval. Des fois, seulement se promener en étant à côté de lui, c'est pas toujours monter à cheval. C'est des fois juste s'occuper de lui pendant une heure, deux heures. C'est vrai que j'ai passé des après-midi entières, donc ça a vraiment été une passion.
Alors, l'année dernière, vous êtes rentré en fac de médecine. On connaît le travail que demande la première année, notamment. Vous avez dû arrêter de faire de l'équitation?
Alors, tout à fait. Alors, j'avais arrêté dans l'année de ma terminale pour préparer le bac, parce que c'est vrai que les deux étaient un petit peu difficiles à concilier.
Oui.
Et ensuite, je suis partie habiter sur Lyon. Avant, j'habitais en campagne et je suis partie habiter sur Lyon. Et j'ai entamé ma première année de médecine. Ça fait maintenant bientôt 3 ans.
Oui.
Et du coup, vraiment, la première année de médecine, le temps que j'avais ne me permettait pas forcément de faire du sport. J'ai mis pendant mes deux premières années de médecine le sport un petit peu en stand-by. Et j'ai repris l'année dernière quand je suis passée en deuxième année.
Alors justement, vous avez repris l'année dernière et maintenant vous vous levez parfois très très tôt pour aller faire du crossfit, je crois, avant vos cours. Déjà, qu'est-ce que c'est le crossfit?
Alors le crossfit, pour donner un petit peu la définition théorique, c'est un mélange de gymnastique, d'haltérophilie, donc tout ce qui va être lever des poids. Et c'est aussi un mélange de tout ce qui est cardio, donc la course, du rameur. C'est vraiment un mélange en fait de ces trois disciplines qui font une discipline qui est assez complète.
Oui, très complète. Comment arrivez-vous à vous motiver, à vous lever notamment tôt le matin?
Alors ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. C'est un moyen, en fait, je trouve, de bien commencer la journée. En fait, c'est quelque chose qui détend. On sait qu'on va un petit peu transpirer, qu'on va être à fond dedans. Et moi, c'est quelque chose qui me permet de commencer ma journée, en fait, sur de bonnes bases. Donc, ça m'arrive de me lever vers 7h. Après, il y en a même qui commencent plus tôt que moi.
Oui.
Mais en tout cas, moi, quand je me lève vers 7h, je me dis qu'au moins, une fois que j'aurai passé mon entraînement, je serai en pleine forme, en fait.
Alors, vous faites ça tous les jours, je suppose?
Alors, pas tous les jours, 3 fois par semaine, parce que c'est pas à côté de chez moi. Donc, le temps
D'accord.
d'y aller, tout ça, ça me prend quand même à peu près 2 heures avec l'entraînement. Du coup, j'y vais 3 fois par semaine, mais j'aimerais bien y aller plus en soi. Mais bon.
Et alors,
voilà.
Qu'est-ce que ça vous procure exactement? Expliquez-moi. Ça influe sur votre mental lorsque vous dites que après le sport, vous passez une bonne journée. Ça stimule l'esprit pour les études, notamment de médecine, que vous faites?
Oui, tout à fait. C'est un sport où, en fait, c'est vraiment le dépassement de soi. C'est toujours aller plus loin parce qu'on a des cours collectifs avec des coachs. Et en fait, ils vont toujours nous pousser à aller plus loin. Alors, c'est quelque chose qui nous apprend vraiment à nous dépasser parce que le crossfit, c'est un sport qui est quand même très difficile. Et si on n'a pas un minimum de volonté, en fait, on progressera pas forcément vite. Alors que là, au contraire, de savoir qu'on est un petit peu livré à soi-même pendant l'entraînement et que si on veut faire plus, et ben, il faut se convaincre qu'on peut faire plus. Et ça m'a permis de progresser, de justement d'apprendre un petit peu plus des fois la rigueur ou des choses comme ça.
Est-ce que la pratique de ce sport vous paraît aujourd'hui indispensable à votre bien-être?
Ah oui, tout à fait. Alors là, je suis sûre que ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie d'arrêter.
Pas du tout. Et alors, non. J'avais une dernière question. Est-ce que vous avez... quelle différence y a-t-il entre une journée où vous avez pratiqué le crossfit le matin, donc, et une où vous n'avez pas pratiqué? Vous sentez vraiment la différence?
Je sens la différence parce que déjà, j'aime bien des fois raconter autour de moi un petit peu ce que j'ai fait pendant la séance, partager avec des amis ce que j'ai pu faire. Elles me demandent souvent « Ah oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui au crossfit ?» Donc en fait, c'est un petit peu un moyen de partager, même avec les autres personnes avec qui je fais l'entraînement. En fait, on se raconte un petit peu comment on a vécu la chose. Donc en fait, je trouve que c'est un moyen de partage, c'est la première chose. Et puis aussi à la fin de la journée, on va dire, je sens que quand j'ai fait l'entraînement, le soir, je vais passer une bonne nuit parce que du coup, c'est quand même quelque chose qui... en quelque sorte qui fatigue, mais c'est ce que j'appelle de la bonne fatigue. Donc le soir, généralement, quand je me couche, c'est après je passe une bonne nuit. Donc ça a sûrement un effet sur le sommeil.
Alors comme je le disais en début d'émission, l'Organisation Mondiale de la Santé recommande de faire au moins 30 minutes de marche rapide par jour entre 18 et 64 ans. C'est vraiment bénéfique. Est-ce que vous trouvez qu'autour de vous, vos futurs confrères et consoeurs pratiquent le sport comme vous, ou c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça?
Alors, je dirais que dans tout ce qui est études de médecine, on est vachement plus touché justement parce que c'est quelque chose en fait qu'on apprend en cours. On a des cours de nutrition, des cours sur le bien-être, le sport, et en fait, on nous l'enseigne en cours. Alors, ça ne veut pas dire que tous les étudiants font assez de sport, mais autour de moi, oui, j'en vois quand même beaucoup qui font du sport. Après, du sport, ça peut être n'importe lequel, mais en tout cas, des activités physiques ou du sport. Les deux, oui, généralement, autour de moi.
Il est vrai qu'en médecine, en étudiant la médecine, on doit comprendre très vite combien le sport est indispensable à entretenir son corps et à avoir une meilleure santé. Merci beaucoup, Margot, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Jean-Louis. Il a fait moins de sport à partir de 40 ans, mais suite à des problèmes de santé, il a dû s'y remettre.
Europe 1. Pour favoriser votre bien-être mental, pour votre santé physique, votre cœur, vos muscles, vous pratiquez une ou plusieurs activités physiques. On vous écoute au 3921. Un seul numéro, vous le connaissez, c'est le 3921 pour venir nous dire quels sont les bienfaits que vous ressentez lorsque vous pratiquez une activité physique, une activité sportive, ou alors vous vous en passez et n'en ressentez pas le besoin. Venez échanger avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et dans la première partie de cette émission, nous avons eu Margot qui a commencé très jeune le sport, puisqu'elle a commencé à l'âge de 7 ans. Et puis les études de médecine à préparer, le bac notamment, elle s'est interrompue. Depuis, elle fait du crossfit. Elle nous a vanté combien cela lui faisait du bien et combien il était indispensable pour elle de se stimuler. Et c'est ce qu'elle arrivait à faire très bien avec ce crossfit. Nous sommes maintenant avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jean-Louis?
Eh bien j'ai 70 ans et je vous appelle de Landerneau dans Finistère.
D'accord. Alors Jean-Louis, plus jeune, vous marchiez beaucoup avec votre père. Vous avez d'ailleurs fêté vos 14 ans au sommet du Mont Blanc. Ça devait être quelque chose ça. Vous partagiez cette passion de la marche avec votre père?
Oh oui, avec mon père, une de mes sœurs, on marchait effectivement beaucoup, on a fait beaucoup de sport.
Vous étiez déjà dans la région de Landerneau ou le Mont-Blanc, ça a à voir avec l'endroit où vous viviez avant?
Non, à l'époque, j'étais dans la vallée du Rhône.
D'accord, donc pas très loin du Mont-Blanc. Et voilà. qu'est-ce que cela vous apportait, étant jeune, de marcher comme ça?
Ah ben bah, disons que moi, c'est une chose que j'aimais bien. C'était un passe-temps régulier. Et puis, bon, j'ai continué ensuite parce que bah, je suis rentré à l'armée. Et à l'armée, j'ai beaucoup marché aussi.
Oui.
Et puis après, bah, j'ai arrêté par raison d'activité professionnelle et j'ai repris beaucoup plus tard.
Mmh. Alors, vous évoquiez l'armée, justement. Le sport à l'armée, c'était le quotidien, hein, puisque c'était lors de votre service militaire. Ça vous a plu, l'armée, pour ce côté, justement, sportif quotidien ?
Ah bah, disons que c'était plus que le service militaire, puisque j'y suis resté presque 20 ans, quand même.
Ah oui, quand même, vous avez signé, quoi.
Voilà, oui. Et donc là, bah, c'est vrai qu'on faisait énormément de sport, entraînement physique tous les jours. Et,
oui.
et pas que physique. Il y avait certaines périodes un peu plus difficiles selon l'endroit où on se trouvait.
Ouais. Vous ne regrettez pas d'ailleurs que le service militaire est disparu parce que le sport amène quand même beaucoup de valeur, je trouve, et surtout crée du lien entre les gens. Et je trouve que avant, lorsque le service militaire était obligatoire, c'était l'occasion quand même de trouver de quoi fonder quelque chose de l'ordre du passage de jeune adulte à adulte, vraiment.
Là, oui, effectivement, c'est vrai que c'est dommage que ça ait été supprimé. Bon, malheureusement, maintenant, on parle de nous remettre un ersatz de service militaire, mais ça sera jamais la même chose. Et mmh. C'est vrai qu'on aura... En à peine un mois, bon, ils n'auront pas le temps de se réhabituer à faire du sport comme on pouvait le faire, nous, à l'époque.
Mmh. Vous dites que vous n'aimez pas le mot sport, d'ailleurs. Vous préférez parler d'activité physique, comme l'OMS, hein, d'ailleurs. Pourquoi ?
Parce que je parle pour moi, maintenant, qui suis arrivé à un certain âge et qui ai repris une activité physique de loisir,
oui.
Le mot sport a une connotation un petit peu, disons, de compétition,
oui.
De regard de l'un envers l'autre. Alors que je pense qu'arrivé à un certain âge, en faisant ce que nous faisons, il n'y a justement plus de notion de résultat, il n'y a qu'une notion effectivement d'entraînement et d'entraide les uns envers les autres.
Mmh. Alors, justement, à l'âge de 50 ans, vous avez eu des problèmes de santé. C'est ce pourquoi vous dites que vous avez recommencé à faire du sport. Ce sport que vous avez recommencé de faire, c'était une prescription médicale ?
Non, c'était pas une prescription médicale. C'était bon, dans une discussion avec un médecin qui m'avait dit « ça serait bien si vous recommenciez à essayer de bouger un peu plus ».
Oui.
Et puis j'ai rencontré... la dirigeante de l'association dans laquelle je suis, qui s'appelle Landerne Sport Loisirs, et qui m'a dit « viens chez nous ». Et j'ai donc intégré à l'époque le programme de diabète action, c'est-à-dire que c'est 12 séances de gym douce où on fait de l'équilibre, on fait différentes choses, et ensuite on passe à la gym douce, gym adaptée, et
ouais,
à la rando.
Ouais, mmh.
Et donc j'ai recommencé comme ça en 2014, j'étais pas capable de faire 2 km à pied. Maintenant je fais 8 km tous les jeudis.
Mmh.
Et donc et je me sens beaucoup mieux, j'ai repris confiance en moi.
Oui, vous dites que ça vous a aidé à retrouver le moral et justement à reprendre confiance en vous. Vous ne pourriez plus vous en passer aujourd'hui ?
Ah, aujourd'hui, je m'en passerai plus, non. C'est clair que j'attends avec impatience le jeudi où on part marcher tous en groupe, on discute, on en profite, on regarde le paysage,
ouais.
Ça fait un bien fou.
Mmh. Vous êtes combien à pratiquer ce type de marche ?
Ah, le jeudi, on est une 60-70.
Ah oui. Donc vous vous êtes fait...
En différents groupes selon les niveaux et les capacités de chacun, mais...
Ouais. Bon, et vous vous êtes fait pas mal de copains ?
Alors... si j'ose dire, je suis dans une association à 98% féminine.
Bah, c'est pas plus mal, non ?
Absolument, moi ça me pose aucun problème.
Okay.
C'est vrai qu'on est un peu plus de 300 adhérents pour pratiquer les différentes activités physiques, que ce soit gymnastique, marche ou autre, et on est 5 ou 6 hommes, je crois.
Bon, bah écoutez, parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Louis. Et puis, bonne marche hein, tous les jeudis du côté de Landerneau. Et puis, j'invite d'ailleurs tous ceux qui ont envie de participer à rejoindre Jean-Louis dans ces marches hebdomadaires. Nous allons accueillir dans quelques instants Grégory Ninot pour mieux comprendre le rapport entre le sport et le bien-être. Il est professeur à l'Université de Montpellier et il est spécialiste de l'évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses et des programmes d'activité physique notamment.
Et Mireille nous écrit sur Facebook, atteinte d'une sclérose en plaques. Le sport est une thérapie. Je me lève à 4h45 les 4 jours où je travaille pour faire mes 1h15 d'elliptique et les 3 autres jours, je pratique la course à pied entre 11 et 14 km. Ce n'est pas une contrainte.
Europe 1.
Comme Jean-Louis au 39-21, vous avez dû vous remettre au sport. Comme Mireille sur Facebook, c'est une thérapie. Qu'est-ce que vous apporte une activité physique? Vous nous racontez sur Europe 1. Pour faire le vide, pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, pour vous surpasser, vous pratiquez une activité sportive. Qu'est-ce que ça vous procure et par quoi commencer quand on désire s'y mettre ou recommencer? 39-21 pour nous appeler, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour en savoir plus sur les bienfaits de ce sport, nous accueillons maintenant Grégory Ninot, spécialiste de l'évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses et des programmes d'activité physique notamment. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Merci à
vous. Bonjour. Cela semble évident que le sport contribue au bien-être. Mais jusqu'à quel point il contribue, cette pratique du sport au quotidien ou hebdomadaire?
Je crois qu'il était intéressant d'écouter les témoignages de Margot et de Jean-Louis qui ont évoqué à quel point, lorsqu'on a des études de médecine ou lorsqu'on est retraité, finalement, ou pour des raisons professionnelles, on peut arrêter l'activité physique et elle devient quasiment quelque chose d'optionnel. Et tout l'enjeu est bien de se dire que ce n'est pas une option, mais c'est potentiellement un vecteur essentiel pour notre bien-être, comme vous l'évoquez, M. Delacroix, mais également pour la santé. Et je crois qu'il y a un changement de paradigme, de façon de considérer cette activité physique qui n'est pas juste une option, parce qu'en fait, on se laisse aller à travers notre voiture ou l'usage des escalators, etc., où on va utiliser des transports mécanisés et on devient extrêmement sédentaire. On est passé, pour vous résumer, à l'espace d'une centaine d'années, de 25 km par jour d'activité physique à moins de 3 à 5 km d'activité physique par jour.
Ah oui,
la
carrément.
Sédentarité devient. Voilà, donc on est devenu des homo sapiens très sédentaires. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire une activité physique qui va être bénéfique pour sa santé, en parallèle des traitements, si pour Jean-Louis, par exemple, il est malade, ou au contraire, pour quelqu'un qui est jeune, mais qui veut préserver sa santé et éviter un certain nombre de pathologies. Et me dormir, par exemple.
Mais au-delà des personnes qui sont malades, il y en a d'autres qui sont en parfaite santé et qui disent ne pas ressentir le besoin de faire du sport. Est-ce pourtant c'est indispensable d'en faire pour vous?
L'exemple de Margot est parfait. Elle avait des études de médecine et elle a considéré qu'elle n'avait pas à faire d'activité physique, mais pourtant, pour son sommeil, pour à la fois la gestion de son stress, à la fois pour une meilleure alimentation, à la fois pour éviter un certain nombre de rhumes, etc., l'activité physique démontre aujourd'hui, à travers l'expertise collective INSERM qu'on a pu faire, démontrer une efficacité. Donc effectivement, il faut le savoir et après, il faut s'y mettre. Donc il y a des questions motivationnelles après à envisager.
Ne pas en pratiquer du tout, c'est s'exposer à quel type de risque?
Alors, d'abord le surpoids devenant après une obésité, donc ça c'est très très connu. Mais ne pas faire d'activité physique, c'est également un stress qui va être aggravé, donc une moindre résistance au stress. Après, ça va être des désordres métaboliques avec notamment du sucre, pour être très schématique, dans le sang qui va être augmenté et donc une glycémie qui va être plus importante. C'est également des risques de dépression et on a montré à quel point quelqu'un qui est sédentaire a aussi des troubles dépressifs plus importants que quelqu'un qui est actif. Donc c'est en fait un cercle vicieux qui va entraîner de multiples problèmes de santé, on va dire, du niveau purement physiologique à des niveaux psychologiques.
En 2006, l'Institut national de la santé publique du Québec dévoilait que toutes les activités physiques ne se valent pas en matière de bénéfices santé. Quelles sont les meilleures à pratiquer, Grégory Ninot?
C'est exactement ce qui a voulu être démontré dans l'expertise collective INSERM publiée en 2019. C'est bien de différencier, et vous l'avez dit dans votre préambule, Monsieur Delacroix, l'idée qu'on fait 2h30 d'activité physique d'intensité modérée. Mais là-dedans, on peut mettre tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, les recommandations sont à la fois de faire de l'activité d'endurance, c'est-à-dire marcher au minimum des efforts de 10 minutes continues jusqu'à, si possible, une demi-heure. Et donc, pour un volume d'activité qui est de l'ordre de 2h30 par semaine, mais en parallèle, il faudrait et il faudra faire, plus on avance en âge, du renforcement musculaire. Je ne parle pas de musculation, mais je parle vraiment du renforcement musculaire, du gainage, oui, sur lequel on va renforcer, si vous voulez, les fibres qui sont des fibres rapides et qui permettent d'avoir un complément. Donc, il faut à la fois faire de l'endurance, donc marcher sur les efforts un peu de longue distance, mais induisant un effort cardiovasculaire relativement faible, et à côté, du renforcement musculaire pour avoir ces fibres qui sont aussi importantes pour la santé. Et on voit que c'est bien ce complément qui devient essentiel aujourd'hui.
Alors, comme vous l'évoquiez, outre les bienfaits physiques, la pratique d'un sport peut aider à soulager la dépression, comme vous l'avez souligné. C'est une sorte de complément aux psychothérapies, par exemple ? On peut prendre le sport comme ça ?
Oui, c'est exactement ce que nous venons de publier, encore une fois, dans ce rapport. Et c'est tout nouveau, l'INSERM 2019 suit les recommandations canadiennes, américaines, québécoises et allemandes, en disant que à un niveau particulier d'intensité, de fréquence et par des professionnels de l'activité physique qui vont être spécialisés sur ces effets antidépresseurs, oui, en effet, on va avoir un véritable effet comme une intervention non médicamenteuse, donc une véritable thérapeutique, et qui, pour les sujets qui sont à troubles dépressifs légers, donc modérés, on va dire pas des dépressions sévères, l'activité physique peut avoir un rôle véritablement thérapeutique, curatif, et pas uniquement d'amélioration, comme je l'ai dit précédemment, de l'état de santé, mais bien un effet thérapeutique. Et donc ces thérapeutiques sont complémentaires de psychothérapie dans certains cas de figure, ou dans d'autres cas de figure, peuvent être prescrits en première intention par des médecins généralistes, et en disant pour ce patient-là, effectivement, ils vont tenter de prescrire un programme d'activité physique de 3 mois chez un professionnel formé sur ce programme antidépresseur, et pour avoir des résultats, et la littérature internationale et les études, les essais cliniques sur lesquels on a comparé les programmes, témoignent d'un effet antidépresseur aussi important que d'autres traitements.
Jean-Louis nous l'expliquait d'ailleurs, combien la pratique du sport lui avait redonné confiance. On sent que ça a joué un réel rôle pour même lui faire regagner de la confiance, mais on sentait qu'il parlait aussi de son moral. Y a-t-il des réflexes que l'on peut adopter au quotidien quand on n'est pas un grand sportif pour pratiquer plus facilement ?
Je crois que le réflexe, je vais faire une analogie qui n'est pas très, très pertinente, mais se brosser les dents devient un réflexe qui est quasiment acquis aujourd'hui. Et effectivement, l'activité physique, et en particulier lorsqu'on a soit une maladie, soit qu'on est à risque de maladie, et Jean-Louis l'a évoqué, il était pré-diabétique, et c'est bien dans le cadre d'une association qu'il a réussi à trouver un tremplin qui l'a motivé à faire l'activité physique. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de structures qui sont pour les patients fragiles ou pour les personnes à risque de maladie qui sont en train de se mettre en place. Il y a des réseaux sociaux qui sont en train de se mettre en place, pour arriver à motiver et donc à inscrire la personne. Où je pourrais vous raconter l'exemple d'un patient qui me disait, qui était un patient qui avait une maladie respiratoire chronique, qui disait, vous savez, moi je ne viens pas tellement pour moi. Moi, vous savez, c'est vrai que ça me fait du bien l'activité physique, mais quasiment c'est secondaire. Je viens pour d'autres personnes. Et en fait, cette dynamique de groupe, peut-être parce qu'on est en France et qu'on n'est pas dans un monde anglo-saxon où la littérature montre que, et les experts montrent que les Américains fonctionnent un peu pour eux, il y a en France l'idée d'être ensemble, et donc ça a été évoqué par Jean-Louis, l'idée de retrouver des personnes, et que c'est finalement motivant de venir avec des personnes qui sont plus malades ou moins malades que soi, et que ça a véritablement un effet important, et en gros, on s'en fait quelque chose qui va ressembler à se brosser les dents au quotidien. Et donc on y va au quotidien, et on y trouve une dynamique sociale importante, même si on sait qu'indirectement ou après directement, il y a des bénéfices sur la santé.
En tout cas, on entendait combien cela faisait du bien à Jean-Louis. Puis en plus de ça, il avait un groupe qui avait pratiquement 85 voire 90% de femmes qui pratiquaient ce sport. Donc on a entendu combien cela lui faisait du bien à tout niveau. Grégory Nino, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Montpellier, spécialiste de l'évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses, notamment des programmes d'activité physique, et vous restez avec nous pour continuer à nous éclairer. Dans quelques instants, nous serons avec Gaëtan. Il est atteint d'une forme sévère d'hémophilie. Aujourd'hui, il veut montrer combien le sport l'a aidé à traverser sa maladie.
Europe 1. Pour améliorer sa condition physique et mentale, vous faites du sport. À quelle fréquence vous nous appelez au 39 21, 50 centimes la minute. Quand l'activité physique vous aide tous les jours à vous sentir mieux, vous souhaitez vous y mettre, comment vous lancer? Vous avez essayé, vous avez abandonné? Vous nous racontez. Olivier Delacroix vous écoute au 39 21.
C'était assez marquant hein, ce que nous racontait Grégory Nino quant à ses 25 km parcourus en un jour hein, donc de marche ramené à 3 km aujourd'hui grâce au progrès finalement, mais aux dépens de notre santé, parce que ça n'était pas la même chose hein, 25 km, 3 km aujourd'hui, ça fait de nous des gens qui ne bougeons pas beaucoup, et je m'aperçois en l'écoutant que j'en fais partie aussi.
On est sédentaire.
Vous pratiquez un peu de sport?
Pas assez, je pense. Je cours un peu, et puis avec les filles d'Europe 1, les journalistes, les membres de l'antenne d'Europe 1, on fait un peu de foot.
Vous faites du foot.
On fait du
foot. Une équipe féminine de foot en vue de la Coupe du Monde qui a lieu en France cette année. Je vous rassure, l'équipe d'Europe 1 ne sera pas à la Coupe du Monde, mais vous serez là en spectatrice. Nous sommes en ligne avec Gaëtan. Bonjour Gaëtan, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Gaëtan?
J'ai 31 ans et je vous appelle de Lyon. Alors, je suis le deuxième auditeur de la journée de Lyon.
Bah, écoutez, c'est bien. Mais... c'est la preuve que on nous écoute beaucoup à Lyon et c'est très bien. Alors, Gaëtan, vous êtes atteint d'une forme sévère d'hémophilie. Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce que c'est que cette maladie au quotidien?
Alors, l'hémophilie, c'est un trouble de coagulation. C'est-à-dire que lorsque le sang saigne, il s'échappe d'un vaisseau, il faut un système qui s'appelle la coagulation pour permettre au vaisseau de se boucher. Et dans le cadre des hémophilies ou dans les autres maladies hémorragiques rares, on a des difficultés à fermer ce vaisseau. Et du coup, il y a du sang qui se diffuse. Alors, je tiens à le dire tout de suite, un hémophile qui se coupe, ce n'est pas quelqu'un qui peut mourir en se coupant et en se vidant de son sang, parce qu'on a des médicaments aujourd'hui qui sont extrêmement efficaces. La grosse particularité de cette maladie, c'est que ça provoque des dégénérescences au niveau articulaire à cause des saignements qui ont lieu dans les articulations.
Oui.
Et très concrètement, j'ai 31 ans et quand je passe une radio, mes chevilles correspondent à celles d'une personne qui a plus de 85 ans. Pour l'anecdote, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une prescription pour aller faire une radiologie de cheville et j'ai dû repasser plusieurs fois les radios parce que les radiologues me disaient à chaque fois « mais je suis désolé, on a échangé vos radios, je ne comprends pas, je n'ai pas la bonne radio, vos radios, ça ne correspond pas à l'âge que vous avez ». C'est une maladie rare et du coup, les gens connaissent peu, mais voilà, je fais avec.
D'accord, mais est-ce que la pratique d'une activité physique est-elle conseillée, voire proscrite pour les personnes souffrant d'hémophilie?
Eh ben c'est une excellente question. Moi, quand j'étais petit, on me disait qu'il fallait pas faire et qu'il fallait éviter au maximum de faire de l'activité. Vous savez, l'hémophilie, pour beaucoup de gens, et même pour les professionnels, il y a encore quelques années, c'était quelque chose où il fallait faire attention. C'est l'enfant fragile, c'est l'enfant qu'il faut éviter de mettre en contact avec les autres.
Oui.
Quand j'étais petit, j'avais pas trop le droit de faire du sport. Et aujourd'hui, en fait, on dit tout l'inverse. On dit que pour protéger au mieux ses articulations, il faut faire du sport parce que les médicaments qu'on reçoit nous permettent d'avoir une vie qui est à peu près similaire à la normale. Mais sans activité physique, sans sport, en fait, on détériore quand même nos articulations. Et l'enjeu de faire du sport, il est juste phénoménal. Alors, pour faire très simple, j'ai des difficultés. Du coup, j'ai plus le droit de courir et de sauter. En fait, je peux plus courir et sauter alors que j'ai juste 30 ans.
Pourquoi? Mais, à cause de la fragilité de vos articulations?
Alors, c'est pas la fragilité, c'est la dégénérescence en fait des articulations.
D'accord.
Qui fait qu'en fait, il y a des grosses douleurs. Il y a des douleurs qui sont difficiles à gérer au quotidien et sur lesquelles il faut faire beaucoup de kiné tout au long de la vie. Et puis, il faut aussi avoir une activité physique et une hygiène de vie qui soit assez contraignante. C'est-à-dire que je fais attention à ce que je fais, mais je ne fais jamais dans l'excès. C'est-à-dire qu'en fait, je peux faire un peu presque tous les sports, mais en faisant attention à ce que je peux faire.
Mais alors, justement, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous avez rapidement commencé la pratique du basket lorsque vous étiez plus jeune, notamment avec vos amis. Cela vous permettait de garder le moral, c'était indispensable à votre bien-être psychologique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire?
Exactement. En fait, quand j'étais petit, on me disait « reste sur le banc de touche ou fais l'arbitre ». Ce n'était pas quelque chose qui était très facile à vivre.
Oui.
Et en fait, Dès que j'avais la possibilité, dès que mes parents avaient le dos tourné, en fait, je prenais mon ballon de basket et puis je partais avec mes amis et on jouait au basket un petit peu partout. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de me dépenser quand j'étais enfant et quand j'étais ado. Aujourd'hui, en fait, il faut adapter. Et par exemple, le basket fauteuil, c'est une des versions qui peut être intéressante pour moi.
Oui.
Je vous dis ça parce qu'en fait, on m'en a parlé il y a quelques jours et j'ai très envie d'essayer ça et je pense que je vais m'y mettre très rapidement, sûrement à la rentrée. Ou si je trouve un club d'ici là.
Quel risque encouriez-vous en fait lorsque vous pratiquiez ce type de sport au-delà des articulations? Est-ce que on craint un choc et justement une coupure? Est-ce que c'était ce que vos parents craignaient le plus aussi?
En fait, je pense que le principal frein, c'est pas les risques que moi j'ai, en fait c'est le regard des autres, en fait c'est les autres qui veulent pas vous faire la passe quand vous jouez au foot, c'est oui. Les autres qui veulent pas aller vers vous, parce qu'en fait tout le monde sait, même si on vous le dit pas directement, mais tout le monde sait quand vous arrivez quelque part qu'il y a une étiquette qui est collée au-dessus de votre front, et du coup tout le monde fait attention plus ou moins, et du coup c'est très difficile en fait d'essayer de s'intégrer et d'essayer de faire comme les autres quand c'est comme ça. Et moi je pense que l'idée c'est justement de dire que en fait on peut un peu tout faire. Et c'est les personnes en fait qui savent s'adapter parce qu'ils ont eu une éducation. Moi je suis né avec cette maladie là et de toute façon je l'aurai tout au long de ma vie, c'est une maladie chronique, et je sais faire les choses et je sais m'adapter en fonction des choses. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance quand j'étais petit parce que mes parents étaient très actifs dans une association qui s'appelle l'Association Française des Hémophiles, et c'est une association où il y avait d'autres personnes avec la même maladie rare que moi et qui m'ont beaucoup 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 appris sur qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Et
c'est l'association où vous intervenez aujourd'hui hein, d'ailleurs, pour montrer aux adultes et aux parents d'enfants atteints de cette maladie les bienfaits de la pratique d'une activité physique, notamment. Vous en êtes aujourd'hui convaincu, il faut faire du sport, quoi qu'il arrive, même si on est homophile, on peut pratiquer, en tout cas on peut pratiquer le sport.
En fait c'est pas le verbe pouvoir, c'est le verbe il faut. C'est le verbe faire, c'est même un devoir en fait de faire de l'activité physique ou du sport, parce que c'est à la fois un bénéfice pour tout le monde, comme le rappelait le professeur juste avant, mais c'est d'autant plus primordial lorsqu'on a une maladie chronique et que du coup on peut essayer de faire ralentir les choses. Les dégénérescences au niveau articulaire, elles sont inéluctables entre guillemets, mais on peut les ralentir au maximum. Je veux dire, les troubles articulaires, ils arrivent chez n'importe qui vers 50 ou 60 ans.
Oui.
Si on peut attendre 50 ou 60 ans pour une personne hémophile avec des troubles articulaires, je pense qu'on aura atteint quelque chose qui est de l'ordre de la normale. Moi, j'ai eu des troubles articulaires quand j'avais 15 ou 16 ans et je suis en difficulté un petit peu aujourd'hui, même si j'essaie de m'adapter au mieux.
Et vous allez vous adapter au mieux. Quelle bonne idée de faire du basket en fauteuil. J'ai vu un match l'autre jour sur Eurosport. En pleine nuit, je suis tombé dessus. Et c'est vrai que c'était super.
Et ça va vite en plus.
Et ça va très vite. et vraiment, on voit l'habileté. C'est très physique. Donc, merci beaucoup, Gaëtan, pour votre témoignage ultra positif cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec Cyrielle. Elle est aujourd'hui coach sportive après avoir passé toute sa jeunesse à faire du sport. Elle a un besoin viscéral de se dépenser. Et on va en parler avec elle dans quelques instants.
Jean-François a 63 ans, il témoigne au 39-21. Il nous dit « J'ai été alcoolique et SDF, maintenant je fais de la course à pied. Ça m'a sauvé la vie. » Karine sur Facebook « Le sport, c'est mon antidépresseur pour mon bien-être, évacué. » Toutes les tensions d'une journée.
Europe 1.
Vous pratiquez de temps en temps, quotidiennement, le sport est-il indispensable à votre bien-être? 39-21 pour nous le dire. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et on vous demande si vous pratiquez un ou plusieurs sports, quel bienfait ressentez-vous? Vous ne pouvez plus vous en passer, vous nous le dites. Vous nous dites pourquoi au 39-21.
On a beaucoup parlé d'activité physique dans cette émission, mais depuis le début, j'ai l'impression aussi que ce sport, eh bien, c'est une activité presque psychologique. Qu'en pensez-vous, professeur Nino? On peut parler d'une activité psychologique tant elle fait du bien à l'âme, à l'esprit?
Effectivement, c'est à la fois des impacts aujourd'hui psychologiques et donc à la fois sur l'anxiété, le stress, la dépression, sur la confiance en soi. Effectivement, il y a des impacts qu'on peut mesurer scientifiquement et tous les processus sous-jacents montrent à quel point, on va dire, du cerveau, d'une neurone, et je vais remonter jusqu'à la perception qu'on a de sa santé, effectivement, tous ces processus sont en même temps et vont amener des bénéfices tout à fait significatifs. Mais la question a été bien abordée, pas n'importe comment et pas pour n'importe qui. Et effectivement, y compris pour vos journalistes qui ont envie d'améliorer leur santé, il est clair que parce qu'elles ne sont pas malades, c'est peut-être pas encore quelque chose d'obligatoire, mais effectivement, ça a été témoigné par le dernier témoin, pardon, ouais, qui évoquait le fait que effectivement, là, ça devient quelque chose d'obligatoire, au sens de, on avait dit à l'hémophilie, mais dans toutes les maladies chroniques, finalement, ce n'était où on avait un réflexe qui était, il faut se reposer. Quand on est malade, il faut se reposer. Eh bien là, c'est l'inverse. C'est bien parce que finalement, on va tenter de se soigner et il faut sortir de ce réflexe de se reposer. Et évidemment, les médecins dans les années 80 disaient, attention, si vous êtes malade chronique, si vous avez une maladie du cœur, si vous avez une maladie des poumons, il faut se reposer. Mais en fait, c'est la plus mauvaise
des conseils.
Ouais. Exact.
On va en parler justement avec Cyrielle. Bonjour Cyrielle, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci.
Alors vous, Cyrielle, depuis toute petite, hein, vous avez le goût du sport, une véritable sportive. À quel âge avez-vous commencé le sport ?
Comme tous les enfants, j'ai commencé à peu près à l'âge de 7 ans, où on cherche un petit peu son sport. Du coup, à l'âge de 9 ans, j'ai essayé le handball. Que je n'ai jamais arrêté. Et du coup, donc, ça fait 17 ans que je fais du handball.
Mmh. Qui est un sport très complet en plus, hein, je crois.
Oui, exactement. Ça allie la vitesse, la puissance, la force aussi également,
l'habileté,
l'endurance.
Ouais.
Exactement. Mmh. Du coup, oui, ça fait 17 ans que je joue. Là, je suis actuellement en National 1, du coup, en haut niveau.
Ah oui, d'accord, ok. Oui.
Voilà.
Mmh. Ouais. Vous aviez la bougeotte quand vous étiez jeune, l'envie de toujours vous dépenser, de vous défouler?
Oui, complètement. Mmh. Complètement. Alors, j'étais pas j'étais pas un enfant hyperactif non plus. Je savais avoir mes temps calmes,
oui,
mais j'avais exactement ce besoin de toujours me dépenser, de toujours être dehors, à courir de partout, quoi.
Vous sentiez que cela avait un impact sur vos résultats scolaires, sur votre rigueur en classe ?
Non, pas forcément, parce que justement, j'étais pas une élève très douée à l'école. Justement, j'étais très, très axée activité physique et manuelle aussi,
oui,
mais rester justement assise sur une chaise toute la journée.
C'était difficile.
Ouais, complètement.
Alors, on a beaucoup entendu parler des vertus du sport, de ce sport qui façonne le mental aujourd'hui aussi, autant que le corps. Vous êtes aujourd'hui, vous, devenu coach sportif. Qu'est-ce que ce métier vous apporte tout d'abord à vous, coach, avant d'apporter aux autres ?
Tout d'abord, j'allie du coup la passion, ma passion du sport que j'ai depuis toujours,
oui,
à mon métier, quoi. Je suis du coup, je travaille pas forcément.
Ah, on a un petit sérieux problème. Ça y est, on vous a récupéré. Vous disiez, j'ai pas entendu le début de votre phrase.
Je disais que je ne travaille pas dans une salle de sport, je suis beaucoup à l'extérieur.
D'accord.
Donc,
ouais,
ça me permet d'être dans la nature, d'être à l'extérieur.
Mmh.
Donc, c'est un bienfait déjà pour moi-même d'être dans mon élément, quoi, pour exercer mon métier.
Et vous l'exercez en tête-à-tête, parce qu'on voit souvent des coachs sportifs de plus en plus dans des parcs avec des élastiques, des ballons, vous savez, en tête-à-tête. Est-ce que c'est ce que vous faites ou vous faites groupe et particulier ? Comment ça se passe ?
Alors, je travaille avec les particuliers, donc oui, en tête-à-tête, mais aussi en duo ou alors en groupe.
Oui.
Ça peut être, donc moi j'habite à 7, donc je suis au bord de la plage, ça peut être à la plage, ça peut être dans des parcs, dans la forêt, n'importe où mes clients ils veulent se faire coacher.
Oui.
Du coup, c'est l'avantage d'être en extérieur. Donc oui, j'utilise toutes sortes de matériel que vous avez cité, les mm-hmm. élastiques, les medicine balls, les sangles de suspension, etc. Quoi.
Alors, vous entendiez depuis le début de cette émission, on a entendu Margot, Jean-Louis, on a entendu le professeur Grégory Nino, puis Gaëtan évoquer les bienfaits de ce sport. Vous, en tant que coach sportif, quelle impression avez-vous ? Est-ce que c'est une impression de faire du bien aux gens, de leur apporter physiquement comme psychiquement la pêche, en fait, hein, c'est comme ça qu'on va dire.
Ouais, ah ben totalement, comme disait Nino là juste avant, je pense que dès qu'on a soit une maladie ou même ne serait-ce qu'un petit rhume, on a souvent tendance à rester au fond de son canapé, à se dire « je bougerai quand j'irai mieux ». Et je pense qu'au final, c'est sûrement le contraire qu'il faut faire. C'est si on ne se bouge pas, ben on sera mal. Et plus on se bouge, plus on sort, on se dépense, on transpire. Donc on élimine tous ces petits microbes qu'on a en nous. Et je pense que c'est ça qui nous fait plutôt du bien, quoi, de se dépenser, de transpirer.
Complètement, Cyrielle. Et je vais vous dire une chose et qui sera bon pour tous les auditeurs. Moi, ma femme m'a dit un truc. Elle m'a dit, parce que de temps en temps, je dis, oh, ben, je vais au sport. Et puis, il se passe des minutes, puis ensuite une heure, deux heures. Elle me dit, vas-y, tu ne regretteras jamais. Et c'est vrai. À chaque fois que j'y suis allé, je suis ressorti du sport. Moi, je fais de la marche sur un tapis, donc ce n'est pas fantastique. Mais le fait de pratiquer une heure et demie de sport à 7, 8 km heure, comme ça, on fait quand même 12 km. Et à chaque fois, j'en ressors, mais avec vraiment une décontraction, quelque chose qui fait vraiment du bien à ma tête en premier, avant mon corps. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai et que je pense que beaucoup de personnes qui pratiquent ce type de sport en salle ont. En tout cas, merci beaucoup Cyrielle pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Pour conclure cette émission, nous serons dans quelques instants avec Philippe. Il a commencé le sport à 16 ans, d'abord pour perdre du poids. Et à bientôt 60 ans. Aujourd'hui, il est toujours sur son vélo ou en randonnée.
Europe 1. Une fois par semaine, une fois par jour, vous faites du sport pour votre santé, pour vous sentir mieux. Pas sportif dans l'âme, vous aimeriez vous y mettre. Vous nous le dites au 39-21. Sur Europe 1, nous parlons du sport. Est-il indispensable au bien-être? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à vous tous.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Bon, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Philippe?
Alors, 59 ans.
Oui.
Voilà. Et vous m'avez posé comme question.
D'où vous nous appelez?
Je suis à Courdimanche, près de Pontoise, Cergy.
D'accord. Alors,
Philippe. Val-d'Oise.
Oui, ouais, très bien. On connaît bien, dans région parisienne. Philippe, vous, c'était votre volonté de perdre du poids au début qui vous a donné l'envie de faire du sport vers l'âge de 16 ans. Vous y aviez pris goût tout de suite. En tout cas, c'est une question. Est-ce que vous y avez pris goût tout de suite ou c'était synonyme d'effort pour vous au départ?
Non, c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte très rapidement que c'était un complément obligatoire pour perdre du poids pour moi. Mmh. Voilà. Donc, et j'y ai pris goût progressivement.
Et est-ce que ça a marché, en fait? Parce que vous avez l'air de dire que le sport venait s'ajouter à un régime alimentaire assez draconien.
Oui, tout à fait. Non, mais ça a fonctionné très bien. Bon, maintenant, je ferai attention jusqu'à la fin de mes jours, mais voilà, j'ai pas repris de poids jusqu'à maintenant.
Donc,
voilà, je fais attention et le sport est devenu fondamental pour moi. Je ne peux pas passer une semaine, je me sens mal si j'en fais pas. Voilà. Ouais,
ça n'est pas indiscret de vous demander à l'époque, à 16 ans, quel poids vous faisiez et combien justement le sport vous a permis de perdre?
Ah, moi, je suis arrivé jusqu'à 100 kilos.
100 kilos à 16 ans?
Voilà.
D'accord.
Ouais, 16-17 ans. Ouais.
D'accord.
Et maintenant, je suis à 75 kilos depuis je me suis stabilisé. Voilà.
D'accord, magnifique. Alors, voilà. Justement, vous l'évoquez, le sport semble être un besoin qui est devenu totalement indispensable pour vous. Comment cela se traduit-il? Quelle est la pratique de ce sport? Est-ce qu'il y en a plusieurs ou vous avez une discipline particulière?
C'est-à-dire que... Très rapidement, je me suis mis au VTT,
oui.
Donc vers l'âge de 20 ans. À cette époque-là, on ne parlait pas autant du VTT que maintenant. Et après, je me suis mis au vélo de route aussi.
Oui.
Et donc, ça s'est fait progressivement. Et maintenant, je marche également. Je fais partie d'une association sportive. La retraite sportive, la Fédération française de retraite sportive.
D'accord.
Et je suis animateur rando également. Voilà.
Comme Jean-Louis, en fait, de Landerneau, qui marche une fois par semaine en groupe avec des copains, des copines.
Ben voilà, c'est exactement.
Alors, vous qui n'aimiez pas les sports collectifs, puisque le VTT et le sport, pour vous, c'était plutôt synonyme de liberté, de solitude. Et vous dites que c'était une manière de vous retrouver avec vous-même aujourd'hui. Alors, même si la marche n'est pas un sport collectif, vous le faites en groupe quand même.
Oui, bien sûr. Mais par contre, je continue. Je fais beaucoup plus de vélo que je fais de marche à pied, hein, de, ah, bien sûr, totalement, oui.
Et donc, alors, cette
c'est
marche...
un outil social pour moi, la marche aussi. Hein,
justement, c'est ce que j'allais vous demander. La marche, c'est un véritable tissu social. Vous avez rencontré beaucoup de personnes, vous avez fait pas mal de connaissances grâce à ces marches en groupe ?
Bien sûr, ouais, on est quand même, on marche toujours à un groupe de entre 20-25 personnes, donc c'est quand même tout univers confondu, voilà, ça nous permet de passer un bon moment convivial tous ensemble, en faisant une activité sportive également, quoi. Mmh. Voilà.
Je me tourne vers vous, professeur Grégory Ninot. On écoute Philippe, ces clubs, ces associations de marche, on en trouve un peu partout. C'est parce que pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne savent pas trop où aller, c'est quelque chose qui est assez répandu un peu partout en France.
Oui, aujourd'hui, il y a une accélération non seulement de l'offre, mais également de la formation des professionnels qui deviennent des professionnels de l'activité physique à vie et de santé. Et en effet, ils sont en train de se structurer, leur association, soit en fédération, soit en collectif. Il faut dire qu'ils sont aidés en particulier par tous les systèmes de e-santé, non seulement par des outils très très concrets comme des podomètres, des altimètres sur lesquels on va mesurer sa quantité d'activité physique, jusqu'à des réseaux sociaux, jusqu'à l'offre sur le web qui permet aujourd'hui à toute personne de trouver son association ou ses associations. Et je voulais juste dire un élément important, c'est que c'est jamais perdu si on abandonne une activité. L'idée, c'est de pouvoir aussi la personnaliser et ses offres peuvent changer du tout au tout. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une association de marche à une association d'aviron, etc. etc. Et je pense que c'est ça qui est aussi un élément important, de trouver la pratique qui se fait du bien et qui fait du bien à soi et sur lequel on peut comme ça vaquer quasiment d'une à l'autre. L'essentiel, c'est de faire cette dose qui est demandée par l'Organisation mondiale de la santé.
Mais en écoutant Philippe et Jean-Louis notamment, on voit combien le sport collectif, en tout cas la pratique du sport en collectif, stimule et donne envie, hein, finalement.
Oui et non. Il y a vraiment plusieurs types de pratiques. Je pourrais vous dire que des startups sont en train de développer des activités en visioconférence directement chez soi ou dans le lit à l'hôpital pour des patients qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont confinés en chambre et sur lequel c'est de la visioconférence. En fait, l'offre d'activité physique est en train vraiment de se sectorier, de se personnaliser, de s'individualiser. Et effectivement, pour certains, on a plutôt envie d'un partage, d'une envie d'être à plusieurs et de faire quelque chose qui va nous sortir du quotidien, mais pour d'autres, ça a véritablement, psychologiquement, un impact qui est, ça fait sens au niveau de sa santé, et dans ce cas-là, on le fait quasiment comme un acte de santé, et ça peut aller jusqu'à dans des structures spécialisées où des mutuelles vont pouvoir rembourser ces pratiques, où l'assurance maladie dans des cliniques de réadaptation vont réapprendre cette pratique. Vous voyez, c'est un véritable continuum, et sur lequel en fonction de ces accidents de vie et ces accidents de santé, ou ces problèmes de santé, ou pas d'ailleurs, en prévention de ces problèmes, on va avoir une offre qui est vraiment beaucoup plus large en France aujourd'hui, et ce qui fait qu'on va retrouver des professionnels de mieux en mieux formés à pouvoir accompagner les besoins de chacun.
En tout cas, professeur Grégory Ninot, on voit que de plus en plus de choses sont faites pour inciter à faire du sport, cette activité physique dont parlait Jean-Louis tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, cher professeur Grégory Ninot, merci aussi à Philippe, à Margot, à Jean-Louis, à Gaëtan et à Cyriel de nous avoir fait partager leur témoignage. Faire du sport a bien des vertus, on l'a vu, notamment sur le plan physique, mais nous l'avons vu tout au long de cette émission. Il permet aussi de prendre confiance en soi et de se dépasser. La pratique du sport développe un certain mental, notamment face à la maladie. Cependant, il est important de se faire suivre par un médecin pour toute pratique, surtout si l'on est un peu fragilisé. Il existe, comme vous l'avez entendu, beaucoup d'associations sportives aujourd'hui partout en France. Et vous pouvez d'ailleurs échanger sur les réseaux sociaux si vous voulez en trouver une.
Oui, et puis partager entre vous vos différentes expériences via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Pardon, n'hésitez pas à continuer d'échanger après l'émission, dans le courant de l'après-midi. Et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Quelles conséquences les addictions ont sur l'entourage ? Les addictions ne touchent pas que ceux qui en souffrent, mais aussi leurs familles, leurs proches. Ce sera notre sujet de demain. Si votre conjoint ou votre conjointe est addict à l'alcool ou à la drogue ou au jeu, si un membre de votre famille s'est sorti de son addiction, si vous avez aidé votre enfant face à l'addiction, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Nous serons là pour vous écouter.